Chapitre 8. Que peut-il être arrivé à Denise qu'elle ne revient pas ? Murmurait grand-père Chandoré en arpentant la place du marché neuf et en consultant sa montre pour la 20e fois. Longtemps, la crainte de déplaire à sa petite fille et la peur d'être grondée le retinrent à l'endroit où elle lui avait commandé d'attendre. Mais à la fin, sérieusement tourmenté, « Ah, ma foi, tant pis !» se dit-il, « je me risque !» Et traversant la chaussée qui sépare la place des maisons, il s'engagea dans le long corridor de l'immeuble des sœurs Méchinet. Déjà, il mettait le pied sur la première marche de l'escalier lorsqu'il vit le haut s'éclairer. Il entendit presque aussitôt la voix de sa petite fille et reconnut son pas léger. « Enfin » pensa-t-il. Et leste comme l'écolier qui entend le maître, tremblant d'être pris en flagrant délit d'inquiétude, il regagna la place. Mademoiselle Denise y fut presque en même temps que lui et lui sautant au cou. « Bon papa !» dit-elle en faisant claquer ses lèvres si fraîches sur les joues rudes du vieillard. « Je te rapporte tes titres !» Si une chose devait étonner M. de Chandoré, c'était qu'il se trouvât en ce monde un être assez dur, assez cruel, assez barbare pour résister aux prières et aux larmes de Mademoiselle Denise, surtout à des larmes et à des prières appuyées de 120 000 francs. Néanmoins, « Je t'avais bien dit, chère fillette, fit-il tristement, que tu ne réussirais pas. Et tu te trompais, bon papa, et tu te trompes encore, j'ai réussi. Cependant, puisque tu rapportes l'argent, c'est que j'ai trouvé un honnête homme, grand-père, un homme de cœur. Pauvre garçon, à quelle épreuve j'ai mis sa probité ! Car il est très gêné, je le sais de bonne source, depuis que ses sœurs et lui ont acheté leur maison. C'était plus que l'aisance, c'était évidemment la fortune que je lui offrais. Aussi, il fallait voir l'éclat de ses yeux et le tremblement de ses mains pendant qu'il regardait ses titres et qu'il les maniait. Eh bien, il les a refusés, bon papa, il les refuse. Il ne veut pas de récompense pour l'immense service qu'il va nous rendre. » De la tête, M. de Chandoré approuvait. « Tu as raison, fillette, dit-il, ce greffier est un brave homme et qui vient d'acquérir des droits éternels à notre reconnaissance. » « Il convient d'ajouter, reprit Mademoiselle Denise, que j'ai été extraordinairement brave. Jamais je ne me serais cru capable de tant d'audace. Que n'étais-tu caché dans un petit coin, bon papa, pour me voir et pour m'entendre? Tu n'aurais pas reconnu ta petite fille. J'ai bien pleuré un peu, mais après, quand j'ai obtenu ce que je voulais... » « Oh, cher, cher enfant !» murmurait le vieillard ému. « C'est que, vois-tu, je ne songeais qu'au danger de Jacques et à la gloire de me montrer digne de lui qui est si courageux. J'espère qu'il sera content de moi. » « Ce serait un seigneur difficile s'il ne l'était pas !» s'écria M. de Chandoré. Mais c'est sous les arbres de la place du marché neuf que causaient le grand-père et sa petite-fille, et déjà, plusieurs promeneurs avaient trouvé le moyen de passer 3 ou 4 fois près d'eux, les oreilles largement ouvertes, fidèles à cette discrétion charmante qui est un des agréments de Sauveterre. Mise sur ses gardes par les prudentes recommandations de Méchinet, Denise ne tarda pas à s'en apercevoir. « On nous écoute, dit-elle à son grand-père. Bien, je te dirai tout en route. » Et en effet, tout en cheminant, elle lui racontait jusqu'au moindre détail de son entrevue, et le vieux gentilhomme déclarait ne savoir en vérité ce qu'il devait le plus admirer, de sa présence d'esprit à elle, ou du désintéressement de Méchinet. Raison de plus, conclut la jeune fille, pour ne pas augmenter les périls auxquels va s'exposer cet honnête homme. Je lui ai promis une discrétion absolue, je tiendrai ma promesse. Si tu veux me croire, bon papa, nous ne parlerons de rien, ni aux tantes, ni à madame de Boiscourant. Dis tout de suite, rusée, que tu voudrais sauver Jacques à toi toute seule. Ah, si je le pouvais! Malheureusement, il va falloir mettre maître Folga dans la confidence, car nous ne saurions nous passer de ses conseils. Ainsi fut fait. Tante Lavarande et la marquise de Boiscourant durent se contenter de l'explication assez peu vraisemblable que donnait de sa sortie Mademoiselle Denise. Et quelques heures plus tard, la jeune fille, maître Folga et M. de Chandoré tenaient conseil dans le cabinet du baron. Plus que M. de Chandoré encore, le jeune avocat devait être surpris de la conception de Mlle Denise et de sa hardiesse à l'exécuter. Jamais il ne l'eût soupçonné capable d'une telle démarche, tant jeune fille, elle gardait encore les grâces naïves et les timidités de l'enfant. Il voulait la complimenter, mais elle... « Où est mon mérite ? » interrompit-elle vivement. « À quel danger me suis-je exposée ?»« À un danger fort réel, mademoiselle, je vous l'assure. »« Bah ! » fit M. de Chandoré. « Corrompre un fonctionnaire, poursuivait Maître Folga, c'est grave. Il y a dans le code pénal un certain article 179 qui ne plaisante pas et qui assimile le corrupteur au corrompu. « Eh bien, tant mieux !» s'écria Mlle Denise. « Si ce pauvre méchiné va en prison, j'irai avec lui. » Et sans remarquer l'expression de mécontentement de son grand-père, « Enfin, monsieur, dit-elle à Maître Folga, voici le vœu que vous formiez réalisé. Maintenant, nous allons avoir des nouvelles positives de M. de Boiscourant, il nous donnera ses instructions. »« Peut-être, mademoiselle. »« Comment peut-être ? Vous avez dit devant moi ?» « Je vous ai dit, mademoiselle, qu'il serait inutile, imprudent peut-être, d'y intenter avant de savoir la vérité. La saurons-nous ? Pensez-vous que M. de Boiscourant, qui a tant de raisons de se défier de tout, la dira dans une réponse qui doit passer par plusieurs mains avant de vous arriver ?»« Il la dira, monsieur, sans restriction, sans crainte, sans péril. »« Oh ! Mes mesures sont prises. Vous verrez. » Alors nous n'avons plus qu'à attendre. Hélas, oui, il fallait attendre, et c'était bien là ce qui désolait Mlle Denise. À peine dormit-elle. Sa journée du lendemain fut un supplice. À chaque coup de sonnette, elle tressaillait et courait voir. Enfin, vers 5 heures, rien n'étant venu, « Ce ne sera pas pour aujourd'hui, » dit-elle, « pourvu, mon Dieu, que ce pauvre méchiné ne se soit pas laissé surprendre. » Et peut-être pour échapper aux obsessions de ses craintes, elle consentit à accompagner Madame de Boiscourant qui allait rendre visite. Ah, si elle eût su ! Il n'y avait pas 10 minutes qu'elle était dehors, quand un de ses gamins, comme on en rencontre à toute heure du jour, polissonnant sur les places de Sauveterre, se présenta, porteur d'une lettre à l'adresse de Mlle Denise. On la porta à M. de Chandoré, qui, en attendant le dîner, faisait un tour de jardin en compagnie de Maître Folga. « Une lettre pour Denise !» s'écria le vieux gentilhomme dès que le domestique se fut éloigné. « C'est la réponse que nous attendons. » Il rompit le cachet bravement. Ah, empressement inutile. Le billet renfermé dans l'enveloppe était ainsi conçu. 31, 9, 17, 19, 23, 25, 28, 32... 101, 102, 129, 137, 507, 515. 37. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 24, 27, 52, 54, 118, 119, 120, 200, 201. 41. 7, 9, 17, 21, 22, 44, 45, 46. Et il y en avait 2 pages comme cela. « Tenez, maître, essayez de comprendre, » dit M. de Chandoré, en tendant cette réponse à Maître Folga. Positivement, le jeune avocat essaya, mais après 5 minutes d'efforts inutiles, « Je comprends, » fit-il, « que Mlle de Chandoré avait raison de nous dire que nous saurions la vérité. M. de Boiscourant et elle étaient convenus autrefois d'un chiffre. » Grand-père Chandoré leva les mains au ciel. « Voyez-vous ces petites filles, » dit-il, « voyez-vous, nous voilà à sa discrétion, puisqu'il n'y a qu'elle pour nous traduire ce grimoire. » Si, en accompagnant la marquise de Boiscourant chez Madame Sénéchal, Denise espérait dissiper les tristes pressentiments dont elle était agitée, son espoir fut déçu. L'excellente femme du maire n'était pas de celle à qui on peut aller demander du courage aux heures de défaillance. Elle ne sut que se jeter alternativement dans les bras de Madame de Boiscourant et de celle de Mlle de Chandoré et leur répéter, en éclatant en sanglots, qu'elle les tenait, l'une pour la plus malheureuse des mères, l'autre pour la plus infortunée des fiancées. « Cette femme croit donc Jacques coupable ? pensait, non sans irritation, Mademoiselle Denise. Et ce n'est pas tout. En revenant vers le haut de la rue Mautrec, non loin de la maison où étaient provisoirement installés le comte et la comtesse de Clodieuse, elle entendit un jeune garçon qui criait « Maman, viens donc voir la mère et la bonne amie de l'assassin !» La pauvre jeune fille rentrait donc plus affligée qu'elle n'était partie, lorsque sa femme de chambre, qui bien évidemment guettait son retour, lui dit que son grand-père et maître Folga l'attendaient dans le cabinet du baron. Sans prendre le temps d'ôter son chapeau, elle y courut et dès qu'elle entra, « Voici la réponse !» lui dit M. de Chandoré en lui présentant la lettre de Jacques. Elle ne put retenir un cri de joie et d'un geste rapide, elle porta cette lettre à ses lèvres en répétant « Nous sommes sauvés ! Nous sommes sauvés !» M. de Chandoré souriait du bonheur de sa petite fille. « Seulement, mademoiselle la cachotière, reprit-il, vous aviez, à ce qu'il paraît, de grands secrets à échanger avec M. de Boiscoran, puisque vous aviez adopté un chiffre, ni plus ni moins que des conspirateurs. Maître Folga et moi y avons perdu notre latin. » Alors seulement, la jeune fille se rappela la présence de l'avocat de Paris, et, plus rouge qu'une pivoine, « En ces derniers temps, dit-elle, Jacques et moi, je ne sais à quel propos, avions eu l'occasion de parler de moyens imaginés pour correspondre secrètement, et il m'a enseigné celui-ci. Deux correspondants font choix d'un ouvrage quelconque et en ont chacun un exemplaire de la même édition. Celui qui écrit cherche dans son exemplaire les mots dont il a besoin et il les indique par des chiffres. Celui qui reçoit la lettre, avec les chiffres, retrouve les mots. » Ainsi, dans le billet de Jacques, les numéros suivis de deux points indiquent une page et les autres, le numéro d'ordre des mots choisis dans cette page. « Eh, fit grand-père Chandoré, j'aurais cherché longtemps. » « C'est très simple, continua mademoiselle Denise, très connu et cependant très sûr. Comment un étranger devinerait-il le livre choisi par les correspondants? Puis il est des moyens encore pour dérouter les indiscrétions. » On convient, par exemple, que jamais les chiffres n'auront leur valeur, ou plutôt que cette valeur variera selon le jour où on reçoit la lettre, et le premier, le second, le troisième ou le dernier de la semaine. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes lundi, premier jour, n'est-ce pas? Eh bien, de chaque numéro de page, je dois retirer un et ajouter un à chaque numéro de lettre. Et tu vas t'y reconnaître, fit Monsieur de Chandoré. « Assurément, bon papa, dès que Jacques m'a eu expliqué ce système, j'ai tenu à l'essayer comme de juste. Nous avons choisi un livre que j'aime beaucoup, le Lac Ontario, de Cooper, et nous nous amusions à nous écrire des lettres infinies. Oh, cela occupe, va! Et c'est long, parce qu'on ne trouve pas toujours les mots qu'on voudrait employer, et qu'il faudrait alors les désigner lettre par lettre. » Et M. de Boiscoran a le Lac Ontario dans sa prison, demanda maître Folga. Oui, monsieur, je l'ai appris par monsieur Méchinet. Le premier soin de Jacques, dès qu'il s'est vu au secret, a été de demander quelques romans de Cooper, et monsieur Galpin d'Aveline, qui est si fin, si clairvoyant, si défiant, est allé les lui chercher lui-même. Jacques comptait sur moi, monsieur. Alors, chère fille, va nous déchiffrer cette énigme, dit monsieur de Chandoré. Et dès qu'elle fut sortie, « Comme elle l'aime, murmura-t-il, comme elle l'aime, ce Jacques. S'il lui arrivait malheur, monsieur, elle en mourrait. » Maître Folga ne répondit pas et il s'écoula près d'une heure avant que mademoiselle Denise, enfermée dans sa chambre, réussît à rassembler tous les mots désignés par les chiffres de Jacques de Boiscoran. Mais lorsqu'elle eut achevé et qu'elle reparut dans le cabinet de son grand-père, le plus profond désespoir se lisait sur son jeune visage. « C'est horrible !» dit-elle. La même idée, telle qu'une flèche aiguë, traversa l'esprit de M. de Chandoré et de Maître Folga. « Jacques, avouait-il donc ?»« Tenez, lisez !» leur dit Mademoiselle Denise en leur tendant sa traduction. Jacques écrivait. « Merci de votre lettre, ma bien-aimée. Un pressentiment me l'avait si bien annoncé que je m'étais procuré le Lac Ontario. » Je ne comprends que trop votre douleur de voir que ma détention se prolonge et que je ne me disculpe pas. Si je me suis tue, c'est que j'espérais que les preuves de mon innocence viendraient du dehors. je reconnais que l'espérer encore serait insensé et qu'il faudra que je parle. Je parlerai. Mais ce que j'ai à dire est si grave que je garderai le silence tant qu'il ne me sera pas permis de consulter un homme qui ait toute ma confiance. C'est plus que de la prudence qu'il me faut maintenant, c'est de l'habileté. Jusqu'à ce moment, fort de mon innocence, j'étais tranquille. Mon dernier interrogatoire vient de m'ouvrir les yeux et de me montrer l'étendue du danger que je cours. Mes angoisses seront affreuses jusqu'au jour où je pourrai voir un avocat. Merci à ma mère d'en avoir amené un. J'espère qu'il me pardonnera de m'adresser d'abord à un autre qu'à lui. J'ai besoin d'un homme qui connaisse à fond notre pays et ses mœurs. C'est maître Mergis que je choisis et je vous charge de l'avertir de se tenir prêt pour le jour où, l'instruction étant terminée, le secret sera levé. Jusque-là, rien à faire, rien que d'obtenir, si possible, qu'on retire mon affaire à G.D. et qu'on la confie à un autre. Cet homme se conduit indignement. Il me veut coupable absolument, il commettrait un crime pour m'en accuser et il n'est sorte de piège qu'il ne me tende. Il faut me faire violence pour garder mon calme toutes les fois que je vois entrer dans ma prison ce juge qui s'est dit mon ami. Ah, cher, j'expie bien cruellement une faute dont, jusqu'ici, je n'avais, pour ainsi dire, pas eu conscience. Et vous, mon unique ami, me pardonnerez-vous jamais les horribles tourments que je vous cause ? J'en aurai beaucoup encore à vous dire, mais le détenu qui m'a remis votre billet m'a dit de me hâter et les mots sont longs à rassembler. La lecture de cette lettre achevée, maître Folga et monsieur de Chandoré détournèrent tristement la tête, craignant peut-être que mademoiselle Denise ne surprit dans leurs yeux le secret de leurs pensées. Mais elle ne comprit que trop ce que signifiait ce mouvement. « Douterais-tu donc de Jacques, grand-père ? » s'écria-t-elle. « Non, » murmura faiblement monsieur de Chandoré, « non. » « Et vous, maître Folga, seriez-vous froissé de ce que Jacques veut consulter un autre avocat que vous ?»« J'aurais été le premier, mademoiselle, à lui conseiller de voir un homme du pays. » Il fallait à mademoiselle Denise toute son énergie pour retenir ses larmes. « Oui, cette lettre est terrible, » dit-elle. « Mais comment ne le serait-elle pas ? Ne comprenez-vous pas que Jacques est désespéré, que sa raison chancelle après tant de tortures imméritées ?» Quelques coups légers frappés à la porte l'interrompirent. « C'est moi !» disait la voix de madame de Boiscoron. Grand-père Chandoré, maître Folga et mademoiselle Denise se consultèrent un instant du regard. « La situation est trop grave, » annonça l'avocat, « pour que la mère de monsieur de Boiscoron ne soit pas consultée. » Et il se leva pour ouvrir. Depuis que tenait conseil mademoiselle Denise, son grand-père et maître Folga, un domestique, à 5 reprises différentes, était venu leur crier à travers la porte fermée au verrou que la soupe était sur la table. « C'est bien !» avait-il répondu à chaque fois. Mais comme il ne descendait toujours pas, madame de Boiscoron avait fini par comprendre qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Or, que pouvait être ce quelque chose pour qu'on lui en fît mystère ? On ne lui eût pas caché, pensait-elle, un événement heureux. C'est donc avec la très ferme résolution de se faire ouvrir qu'elle était montée frapper au cabinet de monsieur de Chandoré. Et dès que maître Folga lui eut ouvert, dès en entrant, « Je veux savoir, » dit-elle. Mademoiselle Denise lui répondit, « Quoi qu'il arrive, madame, » dit-elle, « rappelez-vous qu'un seul mot de ce que je vais vous confier, arraché à votre douleur ou à votre joie, suffirait pour perdre un honnête homme envers qui nous avons contracté une de ces dettes dont on ne s'acquitte jamais. J'ai réussi à lier une correspondance entre nous et Jacques. Denise, je lui ai écrit, ma mère. Je viens de recevoir sa réponse. Lisez-la. » Dans une sorte de délire, la marquise de Boiscoron se jeta sur la traduction que lui tendait la jeune fille. Mais, à mesure qu'elle lisait, on pouvait voir à chaque ligne tout son sang se retirer de son visage, ses lèvres blêmir, ses yeux se voiler, l'air manquer à sa poitrine haletante. Et à la fin, la lettre échappant à ses mains défaillantes, elle s'affaissa lourdement sur un fauteuil en balbutiant « Pourquoi lutter, puisque nous sommes perdus ?» Superbe fut le geste de mademoiselle Denise et l'admirable accent dont elle s'écria « Pourquoi ne dites-vous pas tout de suite, ma mère, que Jacques est un incendiaire et un assassin ? » et, secouant la tête d'un mouvement d'indomptable énergie, la lèvre frémissante, promenant autour d'elle un regard où éclataient la colère et le dédain, « Resterai-je donc seule, » fit-elle, « à le défendre, lui qui comptait tant d'amis en ses jours prospères ?»« Soit !» Moins ému, comme de raison, que M. de Chandoré et Mme de Boiscoran, Maître Folguin avait été le premier à se remettre. « Nous serions deux, en tout cas, mademoiselle, » interrompit-il, « car je serais impardonnable si je me laissais influencer par cette lettre. Je serais sans excuse, moi qui sais par expérience ce que votre cœur a deviné. » La prison préventive a des angoisses qui dissolvent les caractères les plus vigoureusement trempés. Les jours s'y traînent, interminables, et les nuits y ont des terreurs sans nom. L'innocent, dans la cellule des secrets, se voit devenir coupable, de même que l'homme le plus sain d'esprit sent son cerveau se troubler dans le cabanon des fous. Mademoiselle de Chandoré ne le laissa pas poursuivre. « Voilà, monsieur, s'écria-t-elle, ce que je sentais, ce que je n'aurais pas su exprimer comme vous. » Honteux de leur défaillance, grand-père Chandoré et la marquise de Boiscoran s'efforçaient de réagir contre le doute affreux qui, un moment, les avait terrassés. « Enfin, quel parti prendre ? » fit la marquise d'une voix faible. « Votre fils nous l'indique, madame, » répondit l'avocat de Paris. « Nous n'avons qu'à attendre la fin de l'instruction. » « Pardon, dit Monsieur de Chandoré, nous avons à obtenir un changement de juge. » Maître Folgas secoua la tête. « Malheureusement, fit-il, ce n'est là qu'un rêve irréalisable. On ne récuse pas comme un simple juré un juge d'instruction agissant à ce titre. Cependant, le législateur a voulu, selon l'énergique expression d'Hérault, que rien ne pût prévaloir contre le juge d'instruction, lui couper le chemin ou brider sa puissance. » L'article 542 du Code d'instruction criminelle est formel. « Et que dit cet article ?» interrogea Mademoiselle Denise. « Il dit en substance, mademoiselle, que la récusation proposée par un prévenu contre un juge d'instruction constitue une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, demande sur laquelle il n'appartient qu'à la Cour de cassation de statuer parce que le juge d'instruction, dans les limites de sa compétence, constitue à lui seul une juridiction. Je ne sais si je m'exprime clairement. « Oh, très clairement !» déclara M. de Chandoré. « Seulement, puisque Jacques le désire... »« C'est vrai, monsieur, mais M. de Boiscoran ne sait pas. »« Pardon, il sait que son juge est son mortel ennemi. »« Soit, en quoi serons-nous plus avancés d'obéir ?» Pensez-vous donc que la demande en renvoi empêcherait M. Galpin d'Aveline de continuer à suivre la procédure ? Point, il la suivrait jusqu'à la décision de la Cour de cassation. Il serait jusque-là, c'est vrai, empêché de rendre une ordonnance définitive. Mais M. de Boiscoran doit la souhaiter, cette ordonnance, dont le premier effet sera de lever le secret et de lui permettre de voir son avocat. « C'est atroce !» murmura M. de Chandoré. « Oui, c'est atroce, en effet, mais c'est la loi. Et ils sont heureux, ceux qui, jamais en leur vie, qu'il s'agisse d'eux ou d'un être cher, n'ont eu l'occasion d'ouvrir ce livre formidable qui s'appelle le Code et d'y chercher, le cœur serré d'une inexplicable anxiété, l'article fatidique et inexorable d'où dépend leur destinée. » Mais, depuis un moment déjà, Mademoiselle Denise réfléchissait. « Je vous ai bien compris, monsieur, » dit-elle au jeune avocat. « Et dès demain, vos objections seront soumises à M. de Boiscoran. » Et surtout, insista le jeune avocat, « expliquez-lui bien que toutes nos démarches, dans le sens qu'il indique, tourneraient contre lui. M. Galpin d'Aveline est notre ennemi, mais nous n'avons à articuler contre lui aucun grief positif. On nous répondrait toujours, « Si M. de Boiscoran est innocent, que ne parle-t-il » C'est ce que ne voulait pas admettre grand-père Chandoré. « Cependant, commença-t-il, si nous avions pour nous de hautes influences ?»« En avons-nous ?»« Assurément, Boiscoran a des amis intelligents qui ont su rester fort puissants sous tous les régimes. Il a été fort lié, jadis, avec M. de Margeril. » Fort significatif fut le geste de Maître Folga. « Diable !» interrompit-il, « si M. de Margeril voulait nous donner un coup d'épaule, mais c'est un homme peu accessible. » On peut toujours lui dépêcher Boiscoran. Puisqu'il est resté à Paris pour faire des démarches, voilà une occasion. Je lui écrirai ce soir même. Depuis que ce nom de Marjorie avait été prononcé, Madame de Boiscoran était devenue plus pâle, s'il est possible. Sur les derniers mots du vieux gentilhomme, elle se dressa et vivement. « N'écrivez pas, monsieur, dit-elle, ce serait inutile, je ne le veux pas. » Si évident était son trouble que les autres en étaient confondus. « Boiscoran et monsieur de Margeril sont donc brouillés ?» interrogea monsieur de Chandoré. « Oui. »« Mais il s'agit du salut de Jacques, ma mère !» s'écria mademoiselle Denise. Hélas, la pauvre femme ne pouvait pas dire quel soupçon avait troublé la vie du marquis de Boiscoran, ni combien cruellement la mère payait en ce moment une imprudence de l'épouse. S'il le fallait absolument, fit-elle d'une voix étouffée, si c'était là notre suprême ressource, c'est moi qui irais trouver monsieur de Margeril. Seul maître Folga eut le soupçon des douloureux souvenirs que ce nom éveillait dans l'âme de madame de Boiscoran. Aussi intervenant, en tout état de cause, déclara-t-il, mon avis est d'attendre la fin de l'instruction. Cependant, je puis me tromper, et avant de répondre à M. Jacques, je désire que l'avocat qui nous désigne soit consulté. Voilà certainement le parti le plus sage, approuva M. de Chandoré. Et, sonnant un domestique, il lui commanda de se rendre chez Maître Mergis, le prier de passer après son dîner. Le choix de Jacques de Boiscoran était heureux. M. Magloire Mergis, plus connu sous le nom de Maître Magloire, passait à Sauveterre pour le plus habile et le plus éloquent avocat, non seulement du département, mais encore de tout le ressort de Poitiers. Il avait encore, ce qui est plus rare et bien autrement glorieux, une réputation inattaquable et bien méritée d'intégrité et d'honneur. Il était connu que jamais il n'eût consenti à plaider une cause équivoque, et on citait de lui des traits héroïques, tel que jeter à la porte par les épaules les clients assez mal avisés pour venir, l'argent à la main, le supplier de se charger de quelque affaire véreuse. Aussi n'était-il guère riche et gardait-il, à 54 ou 5 ans qu'il avait, les habitudes modestes et frugales d'un débutant sans fortune. Marié jeune, Maître Magloire avait perdu sa femme après quelques mois de ménage et jamais il ne s'était consolé de cette perte. Après plus de 30 ans, la plaie n'était pas cicatrisée, et toujours, fidèlement, à de certaines époques, on le voyait traverser la ville, un gros bouquet à la main, et s'acheminer vers le cimetière. De tout autre, les esprits forts de Sauveterre ne se fussent pas privés de rire. De lui, ils n'osaient, tant était grand le respect qu'imposait cet honnête homme, au visage calme et serein, aux yeux clairs et fiers, aux lèvres finement dessinées, véritables lèvres d'orateur, traduisant tour à tour la pitié ou la colère, la raillerie ou le dédain. De même que le docteur Seignebosse, Maître Magloire était républicain, et aux dernières élections de l'Empire, il avait fallu aux bonapartistes d'incroyables efforts, l'appui de l'administration et quantité de manœuvres assez louches pour parvenir à l'écarter de la Chambre. Encore n'eussent-ils pas réussi sans le concours de M. de Clodieuse, qui ne les aimait guère cependant, et qui avait déterminé un grand nombre d'électeurs à s'abstenir. Voilà l'homme qui, sur les 9 heures du soir, se rendant à l'invitation de M. de Chandoré, se présentait rue de la Rampe. Mademoiselle Denise et son grand-père, Madame de Boiscoran et Maître Folga, l'attendaient. Il les salua d'un air affectueux, mais en même temps si triste que Mademoiselle Denise en reçut un coup au cœur. Elle crut comprendre que Maître Magloire n'était pas éloigné de croire à la culpabilité de Jacques de Boiscoran. Et elle ne se trompait pas, car Maître Magloire ne tarda pas à le donner à entendre, avec de grands ménagements sans doute, mais très clairement. Ayant passé la journée au palais, il avait recueilli l'opinion des membres du tribunal, et cette opinion était loin d'être favorable aux prévenus. En de telles conditions, se prêter au désir de Jacques et introduire contre M. d'Aveline une demande en renvoi eût été une impardonnable faute. « L'instruction durera donc des années !» s'écria Mademoiselle Denise, « puisque M. Galpin d'Aveline prétend obtenir de Jacques l'aveu d'un crime qu'il n'a pas commis. » Maître Magloire secoua la tête. « Je crois au contraire, mademoiselle, répondit-il, que l'instruction sera bientôt terminée. » « Si Jacques se tait, cependant !» Le mutisme d'un prévenu, pas plus que son caprice ou son obstination, ne saurait entraver la marche de la procédure. mis en demeure de produire sa justification, s'il refuse de le faire, la justice passe outre. Pourtant, monsieur, quand un prévenu a des raisons... Il n'y a jamais de raison valable de se laisser accuser injustement. Cependant, le cas a été prévu. Libre au prévenu de ne pas répondre à une question qui l'embarrasse. Nemo tenetur prodere se ipsum. Mais avouez que ce refus de répondre autorise le juge à considérer comme décisives les charges sur lesquelles le prévenu ne s'explique pas. Plus était calme le célèbre avocat de Sauveterre, plus ses auditeurs, à l'exception de Maître Folga, étaient effrayés. En écoutant ces expressions techniques qu'il employait, il se sentait glacé jusqu'aux moelles, comme les amis d'un blessé qui entendent le chirurgien repasser des bistouris. « Ainsi, monsieur, demanda d'une voix faible Madame de Boiscourant, la situation de mon malheureux fils vous paraît grave ?»« J'ai dit périlleuse, madame. » Vous pensez, avec Maître Folga, que chaque jour qui s'écoule ajoute au danger qu'il court ? Je n'en suis que trop sûr, et si Monsieur de Boiscourant est réellement innocent ? Ah, monsieur ! Interrompit Mademoiselle Denise. Monsieur, pouvez-vous parler ainsi, vous qui êtes l'ami de Jacques ? C'est d'un air de commisération profonde et bien sincère que Maître Magloire considéra un moment la jeune fille. Puis, « C'est parce que je suis un ami, mademoiselle, répondit-il, que je vous dois la vérité. Oui, j'ai connu et apprécié les hautes qualités de Monsieur de Boiscourant. Je l'ai aimé, je l'aime. Mais ce n'est pas avec le cœur, c'est avec la raison qu'il faut examiner la situation. Jacques est homme, et c'est par d'autres hommes qu'il sera jugé. Il y a de sa culpabilité des indices matériels, palpables, tangibles. Quelles preuves avez-vous à offrir de son innocence ? Des preuves morales. Mon Dieu ! Murmurait Mademoiselle Denise. Je pense donc, comme mon honorable confrère, et Maître Magloire a salué Maître Folga, je crois fermement que si Monsieur de Boiscourant est innocent, il a adopté un système déplorable. Ah, si par bonheur il a un alibi, qu'il se hâte de le produire, qu'il ne laisse pas la procédure arriver à la chambre des mises en accusation. Une fois là, un prévenu est aux trois quarts condamné. Positivement, le cramoisi des joues de M. de Chandoré pâlissait. Et cependant, s'écria-t-il, Jacques ne changera pas de système. Ce n'est que trop sûr pour qui connaît son entêtement de mule. Et malheureusement, sa résolution est prise, dit Mademoiselle Denise. Et Maître Magloire, qui le connaît bien, ne le verra que trop par cette lettre qu'il nous écrit. Jusqu'alors, rien n'avait été dit qui pût faire soupçonner à l'avocat de Sauveterre le moyen employé pour correspondre avec le prisonnier. Lui montrant la lettre, il fallait le mettre dans la confidence, et c'est ce que fit Mademoiselle Denise. Étonné d'abord, il ne tarda pas à froncer le sourcil. « C'est bien imprudent, » murmura-t-il dès qu'il sut tout, « c'est bien hardi. » Et, regardant Maître Folga, « Notre profession, continua-t-il, a certaines règles dont il est toujours fâcheux de s'écarter. Corrompre un greffier, profiter de sa faiblesse et de sa pitié, l'avocat de Paris avait rougi imperceptiblement. « Je n'aurais jamais conseillé une telle imprudence, dit-il, mais du moment où elle était commise, je n'ai pas cru devoir refuser d'en profiter, et dussé-je encourir un blâme sévère, ou pis encore, j'en profiterai. » Maître Magloire ne répondit pas. Mais ayant lu la lettre de Jacques, « Je suis aux ordres de Monsieur de Boiscourant, dit-il, et dès que le secret sera levé, je me rendrai près de lui. Je crois, comme Mademoiselle Denise, qu'il s'obstinera à garder le silence. Cependant, puisque vous avez un moyen de lui faire parvenir une lettre, allons bien, voilà que moi aussi, je profite de l'imprudence commise. Suppliez-le, dans son intérêt, au nom de tout ce qu'il a de plus cher, de parler, de se disculper, de s'expliquer. » Et, saluant, Maître Magloire se retira précipitamment, laissant ses auditeurs consternés, tant il était visible que le but de sa brusque retraite était surtout de cacher la pénible impression qu'il ressentait de la lettre de Jacques. « Certes, dit Monsieur de Chandoré, nous allons lui écrire, mais ce sera comme si nous chantions. Il attendra la fin de l'instruction. » « Qui sait ? » murmura Mademoiselle Denise. Et, après une minute de méditation, « On peut toujours essayer, » ajouta-t-elle. Et, sans s'expliquer davantage, elle sortit et courut à sa chambre écrire ce laconique billet. « Il faut que je vous parle. Notre jardin a une petite porte qui donne sur la ruelle de la Charité. Je vous y attends. Si tard que vous soit remis ce mot, venez. Denise. » Puis, ayant mis ce billet sous enveloppe, elle appela la vieille bonne qui l'avait élevée et, après toutes les recommandations que la prudence lui pouvait inspirer, « Il faut, lui dit-elle, que M. Méchinet, le greffier, ait cette lettre ce soir même. Pars, dépêche-toi. »